Chapitre 16. Assis au volant de la Challenger, Roman consulta sa montre. 10 heures. Il était en avance. Il avait rendez-vous au Trout's avec Torrent et Tranquil à 13 heures. Dans le coffre, il avait une mallette contenant 100 000 $. Tout son plan reposait sur sa capacité à convaincre ces deux serpents qu'il était la réponse à leurs prières inconscientes. Qu'il était le financier qui saurait laver leur argent sale d'un claquement de doigts. Il ferma les yeux. Il revit l'auriculaire sectionné de Dante, le sang coulant le long de son bras. Cela lui rappela les taches rouges sur la manche de sa mère ce jour-là. « Non, » dit-il à voix haute. Depuis quelques nuits, les rêves de sa mère avaient cédé la place à des cauchemars de Getty se débattant dans le four, en poussant des hurlements. La porte s'ouvrait à la volée et Getty bondissait en flammes, la graisse fondue dégoulinant de son corps comme la cire d'une bougie pour goûter sur le sol en béton avec des grésillements répugnants. La nuit précédente, Roman s'était réveillé en nage, les mains crispées sur son oreiller. Il avait hésité à aller voler un cachet sur la table de chevet de Dante, avant de se raviser et de se forcer à se rendormir. L'un d'entre eux devait garder la tête sur les épaules. Quand bien même celle-ci était envahie d'images épouvantables. Il regarda à nouveau sa montre. 10h05. Le temps qu'il marche jusqu'à la chambre d'hôtel, il serait 10h15, l'heure convenue. Par certains aspects, le rendez-vous avec Torrent et ses sbires n'était pas très différent de certaines réunions auxquelles Roman avait eu l'occasion de participer dans sa carrière. Une grosse somme d'argent en jeu, des clients notoirement difficiles à satisfaire. Il devrait faire appel à tous ses talents de vendeur pour les convaincre de faire ce qu'il voulait qu'il fasse, de la manière dont il voulait qu'il le fasse. L'un de ses films préférés était Glengarry, avec Al Pacino dans le rôle de Ricky Roma, l'archétype de l'agent immobilier des beaux quartiers new-yorkais, qui parle tout le temps et qui inspire confiance. Mais c'était le personnage de Blake, interprété par Alec Baldwin, à qui il pensait chaque fois qu'il entrait dans une salle de réunion guindée, ou qu'il s'asseyait au bord d'une gigantesque piscine à débordement en compagnie d'un homme ou d'une femme qui avait toujours connu l'opulence. Toujours conclure la vente. Car telle était la clé. Oui, Roman était conseiller financier, mais au fond, c'était surtout un vendeur. Dès l'instant où il pénétrait dans cette salle de réunion ou qu'il prenait place sur une chaise longue au bord de la piscine, il adressait un message à ses clients. Par ses mots, ses gestes, sa façon de s'habiller. Et entre le moment où il leur serrait la main pour se présenter et celui où il reprenait le volant de sa Porsche, il ne faisait que conclure la vente. Vous pouvez me faire confiance. Pas parce que je suis un saint, même si je me plais à croire que j'interviendrais si je croisais quelqu'un en détresse dans la rue. Non. Vous pouvez me faire confiance parce que je veux nous faire gagner de l'argent à tous les deux. Je veux voir votre portefeuille s'étoffer. Je veux voir votre argent vous offrir une vie que vous aviez seulement imaginée. Et ce faisant, je touche ma commission, parce que nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas d'une relation désintéressée. Ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas être amis. Le système capitaliste n'interdit pas les sentiments, mais ce n'est pas pour cette raison que vous devez me faire confiance. Faites-moi confiance parce que j'apprécie les belles choses. Faites-moi confiance parce que j'aime vivre dans un duplex avec un chef à domicile et un service de pressing. Faites-moi confiance parce que pour satisfaire mon égoïsme, j'ai besoin de réussir. Et pour réussir, j'ai besoin de noircir vos livres de compte. J'ai besoin de nous faire gagner suffisamment d'argent pour qu'on ait tous les deux nos habitudes aux îles Caïmans. Il va sans dire que cette dernière remarque était une plaisanterie. À la fin de son petit discours, la signature au bas du contrat appartenait au destin et non à la chance. C'était comme la gravité. La plupart du temps. Roman descendit de la Challenger. Le vieux motel décrépit se trouvait aux confins du Skids, à quelques encablures des rails où son père avait failli se faire tuer et où la police avait retrouvé la voiture de sa mère. Cette voie ferrée qui formait une sorte d'artère en périphérie de Jefferson Run avait la réputation d'être hantée. Quand Roman était enfant, on racontait ainsi qu'il y avait des fantômes qui rôdaient dans les parages, notamment un aiguilleur sans tête et une jeune femme au cœur brisé, à moins que ça n'ait été un jeune homme, qui s'était jeté sous un train de fret, convoyant du charbon depuis les mines situées dans les montagnes jusqu'au port de Norfolk ou de Newport News. Sans surprise, ces histoires avaient perdu de leur piquant pour Roman lorsque sa mère avait disparu, et que sa famille s'était retrouvée du jour au lendemain l'objet de sa propre légende urbaine. Roman traversa le parking dont le revêtement fissuré subissait l'assaut des mauvaises herbes, passa devant le gérant à moitié endormi et fit le tour du motel. Il regarda son téléphone. Le texto indiquait « chambre 213 ». Il avait trouvé la fille sur une application qui prenait soin d'éviter les termes « travailleuse du sexe » ou « escorte », leur préférant ceux de « masseuse sensuelle » et de « collaboratrice chevronnée ». En fin de compte, peu importait l'emballage, le principe restait le même, louer le corps de quelqu'un d'autre à des fins sexuelles. Sauf que ce n'était pas ce qu'il désirait. Du moins, pas dans le sens où l'entendait la majorité des gens. Il avait échangé avec Naya pour lui expliquer qu'il avait des besoins très particuliers, mais qu'il était prêt à payer un supplément pour qu'elle l'aide à les assouvir en toute discrétion. Il lui avait aussi dit qu'il apporterait son propre matériel, et donc le matin même, il s'était rendu dans un des deux sex-shops de la ville pour se procurer des menottes, une corde, un bâillon et un martinet. Globalement, il était déçu de la qualité de ses achats, du martinet en particulier, qui menaçait de tomber en lambeaux à la première utilisation. Mais tant pis, il ferait avec. La singularité de ses besoins et de ses désirs ne lui inspirait aucune honte. Il avait appris en thérapie qu'une pathologie sexuelle pouvait être un mécanisme de défense. Dans son cas, le schéma était très clair. Il ressentait de la culpabilité par rapport à sa mère. Et cette culpabilité se reflétait à la fois sur l'attirance qu'il éprouvait pour certaines femmes et sur le besoin viscéral qu'il avait d'être puni pour quelque chose dont il n'était fondamentalement pas responsable. Bien sûr, les pratiques qu'il affectionnait n'étaient pas la tasse de thé de tout le monde. Mais on ne pouvait pas pour autant parler de perversion. Plutôt de préférence. Et pourtant, dernièrement, il s'était inquiété de la panique qui l'avait envahi lorsqu'il n'avait pas pu réserver de session juste avant une réunion importante ou une grande prise de décision. Chaque fois, il avait l'impression de glisser le long de la paroi humide d'un puits sans fond. Jusqu'au moment où il parvenait enfin à réserver cette heure, ce créneau, cet instant où il pourrait s'abandonner à cet état presque hallucinatoire, niché entre la menace du martinet et la brûlure libératrice par laquelle, dans un concert de cris et de gémissements, il expirait tous ses péchés, les vrais comme ceux qui relevaient de son imagination. Pendant longtemps, il s'était convaincu que cette décharge émotionnelle aiguisait ses sens et lui apportait la lucidité dont il avait besoin, mais il commençait depuis peu à soupçonner qu'il se berçait d'illusions et que, à l'instar de n'importe quel drogué, il se trouvait de fausses excuses pour justifier son addiction. Peut-être que ce qu'il prenait pour de la lucidité n'était que la satisfaction d'avoir atteint l'état d'abandon qu'il était venu chercher. Ou peut-être que c'était encore moins profond. Peut-être qu'il aimait simplement ça. Il gravit les marches et frappa à la porte de la chambre 213. 2 heures plus tard, il regagna la Challenger, son sac d'accessoires à la main. Frustré, il jeta le sac dans le coffre, s'installa au volant et claqua la portière. Il savait qu'il était le seul responsable de sa frustration. Le scénario complexe qu'il avait élaboré requérait le concours d'une dominatrice accomplie, ce que la jeune femme de la chambre 213 n'était pas. Elle n'avait pas arrêté de s'excuser tandis qu'il s'efforçait de la guider à travers les étapes nécessaires pour atteindre l'état très précis qu'il recherchait, celui où il était à la fois dans son corps et en dehors, expérimentant la douleur dans sa chair tout en ayant l'impression de l'observer depuis l'extérieur. « Je comprends rien », avait-elle fini par soupirer. « Tu veux pas juste qu'on baise ?»« Non », avait-il répondu en reboutonnant sa chemise. « Tant pis, je vais te payer pour ton temps. T'as une application pour les virements instantanés ?» Une fois la transaction effectuée, il avait rassemblé ses accessoires et avait quitté la chambre, abandonnant Naya sur le lit. Le plus gros problème était qu'elle était trop jeune. Cela l'avait tout de suite coupé de son fantasme. Il comprenait à présent qu'il avait besoin d'une femme d'âge mûr. Il sortit du parking sur les chapeaux de roue et s'éloigna du Skids pour rallier au plus vite l'autre extrémité de la ville. Hélas, les feux de signalisation en avaient décidé autrement. Entre Sycamore Avenue et Lilyhammer Street, il dut s'arrêter à chaque intersection. Alors qu'il patientait au croisement en face de Church's Chicken, il déverrouilla son portable et fit défiler son répertoire jusqu'au numéro de Miss Delicate. Son pouce s'immobilisa au-dessus du contact. Le nom était inscrit en lettres capitales, avec une photo de profil représentant une paire de lèvres ensanglantées. Il n'avait jamais effectué de session par téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, il n'en avait pas ressenti le besoin. Mais là, alors qu'il se trouvait à moins de 2 kilomètres du Trouts, l'impression angoissante de chuter dans le vide qui le tiraillait depuis le réveil et qui s'était accentuée pendant l'entrevue ratée avec Naya était en train d'atteindre un paroxysme. Il rempocha le portable. Il avait 100 000 $ dans le coffre de sa voiture, mais il lui manquait une chose autrement plus précieuse. Du temps. Il se gara à quelques pas du Trouts et récupéra la mallette dans le coffre. L'établissement occupait l'ancienne gare de fret, près de la nationale qui ralliait l'université de Prosser State dans le comté de Warren. En réalité, il s'agissait d'un comté si minuscule que tout le monde avait tendance à oublier son existence et à considérer que l'université faisait partie de Jefferson Run. Roman se regarda dans le rétroviseur. Il avait opté pour un pull noir et une veste grise. L'idée était de ne pas avoir l'air trop professionnel, ce qui pourrait froisser Torrent et son psychopathe de petit frère, sans pour autant passer pour un amateur ou une victime. Bref, comme lorsqu'il avait rendez-vous avec un gros client, il allait devoir trouver le juste équilibre entre assurance et déférence. À la différence que ses clients d'Atlanta ne lui avaient encore jamais enfoncé le canon d'un pistolet dans la bouche. Pour atteindre l'entrée du Trouts, il fallait marcher sur une partie de la rue qui était pavée. Certains appelaient ce quartier de Jefferson Run la vieille ville. De fait, la plupart des bâtiments avaient plus de 200 ans et avaient été érigés par les colons anglais qui avaient remonté la rivière depuis la région de Tidewater en 1745. La plupart des étudiants qui venaient s'installer à Jefferson Run pour suivre des cours à l'université de Prosser State partaient du principe que la ville devait son nom à Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis, et accessoirement le père biologique des enfants de son esclave Sally Hemings. Mais Roman avait appris à l'école que le Jefferson en question était en fait un âne, particulièrement indiscipliné, qui, après avoir donné un coup de sabot à son propriétaire, s'était enfui dans les bois, près du campement qui deviendrait Jefferson Run. D'après la légende, lorsqu'on lui avait demandé où était passé son âne, le propriétaire, à qui le coup de sabot avait fait perdre un œil, aurait répondu
« I don't give a damn if Jefferson runs all the way to hell !»
Jefferson peut bien courir jusqu'en enfer si ça lui chante. Le nom était resté. Avec ses alcôves équipées de banquettes en cuir, ses grandes tables en bois laqué, son immense bar en arc de cercle et sa coupole percée de larges fenêtres qui laissaient pénétrer le soleil d'automne, le Trouts dégageait une ambiance cuisine du sud haut de gamme. À l'extérieur du bâtiment, une terrasse circulaire accueillait des guéridons pour ceux qui désiraient dîner à deux. Debout sur le seuil, Roman prit une profonde inspiration et se força à expirer lentement. Par les 9 carreaux de la double porte d'entrée, il pouvait voir Torrent et Tranquille, ainsi que Yellow Boy et 2 hommes qu'il n'avait jamais rencontrés, assis à une longue table près du bar. Torrent était entouré de 2 filles absolument magnifiques. Yellow Boy était à côté de Tranquille, sirotant une bière.
Tu sais ce que tu fais,
se répéta Roman, dans un murmure à peine audible. Un carillon retentit lorsqu'il poussa le battant, et derrière son pupitre, une jeune femme à la peau pâle, aux longs cheveux blonds et aux yeux verts, lui adressa un sourire.
Une table pour une personne ?
Demanda-t-elle.
Non, je rejoins des amis, répondit Roman. D'ailleurs, je les vois, là-bas.
Un premier mensonge qui ne serait certainement pas le dernier de la journée. Car ces hommes n'étaient pas ses amis. Ils n'étaient même pas de vagues connaissances. Et s'ils l'autorisaient à intégrer leur gang d'assassins, lui ne serait pas non plus leur associé. Non, Roman voulait être leur chaos. Il voulait être celui qui précipiterait leur chute.
Qu'ils aillent se faire foutre, songea Roman. Tous jusqu'au dernier.
Il s'avança jusqu'à la table où les frères Gilchrist tenaient salon. Sur le plateau en bois étaient éparpillés des verres de whisky, des carrés de pain de maïs à moitié dévorés et des assiettes contenant des restes de poisson chat frit, de choux, de gombo, de haricots et d'épis de maïs.
« Regardez ce que le bon vent nous amène !» s'exclama Torrent.
« Vous voulez qu'on discute ici ou vous avez un endroit plus au calme ?»
demanda Roman d'un ton détaché.
Dans les reflets de la forêt de verre qui jonchait la table, il vit que Yellow Boy n'arrêtait pas de lui jeter des coups d'œil à la dérobée. « Qu'il s'inquiète, » songea Roman. « Ça pourra m'être utile. »«
Allons à l'arrière, » dit Torrent, avant de se tourner vers les deux femmes à côté de lui. « Vous nous attendez là. »
Il se leva et se dirigea vers une porte à côté du bar. Son frère, Yellow Boy, et les deux hommes que Roman ne connaissait pas passèrent devant. Roman avait les mains moites. Les prochaines minutes seraient déterminantes. Soit il trouvait un moyen d'intégrer le gang, soit il ne ressortirait pas vivant. Dans tous les cas, il fallait qu'il avance. Il suivit donc le petit groupe et quelqu'un ferma la porte derrière lui. Ils étaient désormais dans un bureau, avec au fond une table de travail en métal et une étagère remplie de cartons et de grands classeurs en plastique. Sur la droite de Roman, un canapé noir et limé et une table basse. Sur sa gauche, deux fauteuils inclinables et un divan. Torrent prit place derrière le bureau. Tranquil se percha à sa gauche sur un tabouret de bar. Yellow Boy jeta son dévolu sur le canapé et les deux autres prirent chacun un fauteuil.
« Je t'écoute, l'intello, » lâcha Torrent.
Roman s'avança et posa la mallette sur le bureau. Il n'eut pas le temps d'ouvrir les deux fermoirs que Tranquil sortit un pistolet semi-automatique chromé de sa ceinture et le braqua sur lui. L'arme ressemblait à celle avec laquelle il lui avait cassé les dents.
« Lentement, » indiqua le gangster d'une voix étouffée, comme si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de parler.
Roman avait le cœur qui battait à toute allure. Il se força à respirer calmement sans quitter Tranquil des yeux et il se retint de se passer la langue sur les lèvres. Il avait mal aux dents, mais il savait que la douleur était psychosomatique. Les implants n'avaient pas de terminaison nerveuse.
« Je vais juste l'ouvrir, » prévint Roman.
« À l'intérieur, il y a de l'argent et une boîte contenant des cendres. C'est tout. » Lorsqu'il prononça le mot « cendre », il entendit un raclement de gorge sur sa droite. Il n'eut pas besoin de tourner la tête pour deviner qu'il s'agissait de Yellow Boy.
« Le fric !» ordonna Torrent.
Roman glissa les mains dans la mallette, en se faisant la réflexion qu'elle ressemblait plutôt à une valise, et en tira 5 liasses de billets de $100 qu'il posa sur le bureau. Son estomac était aussi noué qu'une guirlande lumineuse quand on la sort du carton de décoration de Noël. Tranquil avait toujours son pistolet pointé sur lui, mais bizarrement, il affichait une expression bienveillante.
« Maintenant, je vais attraper la boîte », annonça Roman, et Yellow Boy lâcha un sifflement discret.
« Si cet abruti ne se tient pas tranquille, il va nous faire tuer tous les deux », songea Roman, en se saisissant du récipient en plastique rectangulaire dans lequel il empaquetait les cendres qui n'étaient pas destinées à être accueillies dans une urne. La majorité des gens qui envisageaient une dispersion dans une rivière ou dans la mer ne s'embêtaient pas à en acheter une. Ceux qui en exprimaient malgré tout le désir voyaient cela directement avec le funérarium et pas avec le service de crémation, qui n'avait jamais affaire aux clients. Il y eut un bruit sourd lorsque Roman lâcha la boîte sur le bureau. Il faut dire qu'il y avait les restes de deux corps à l'intérieur et que l'ensemble devait peser 4,5 kilos. Enfant, Roman était très doué pour estimer le poids des boîtes de cendres. Il n'avait qu'à les sous-peser quelques instants pour tomber juste, à quelques grammes près. Ensuite, son père posait la boîte sur la balance pour comparer les résultats. C'était à l'époque où l'État imposait au crématorium de peser les cendres, une obligation que Roman n'avait jamais comprise. Entre-temps, la loi avait changé, mais Roman trouvait qu'il n'avait pas perdu la main. Getty mesurait 1,70 m et devait faire autour de 80 kilos. Splody était un peu plus grand et un peu plus lourd. Les cendres des deux corps avaient eu du mal à tenir dans une seule boîte, mais Roman avait fini par y arriver.
« Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» demanda Torrent.
« Je t'ai dit, une boîte contenant des cendres. Ce qui reste de Getty et Cassidy. La preuve qu'on a rempli notre part du contrat. » Pendant que Roman refermait la mallette, Torrent ramassa les 5 liasses de billets.
« Y'a que 50 000 », observa le gangster. « Tu nous avais promis 100 000 et ensuite 50 000 par mois. Me dis pas que t'es déjà en train d'essayer de nous baiser. »
« Tranquille se leva de son tabouret, se pencha au-dessus du bureau et appuya le canon de son arme contre la joue de Roman. C'était le moment le plus risqué. Une rencontre avec un client potentiel qui se montrait nerveux ou méfiant. Un client qui s'était fait avoir par le passé ou qui était convaincu que tous les conseillers financiers étaient des Bernard Madoff en puissance. Roman allait devoir les rassurer tout en leur expliquant exactement qui il était. « Il y a 50 000 $ de plus dans la mallette, » dit-il. « Je peux vous les donner tout de suite ou je peux les faire fructifier. L'argent, c'est mon métier. Je connais que ça. Alors oui, de temps en temps, j'aime bien me taper une jolie fille ou siroter un bourbon de qualité. Mais mon truc, ma vocation, c'est de gagner du fric. J'ai une proposition pour vous. On l'a déjà entendu, ta proposition. » intervint Tranquille. Torrent leva deux doigts pour le faire taire. « Laisse-le parler, » dit-il. « Si ce qu'il raconte me plaît pas, tu lui mettras une balle dans le genou. Comme ça, chaque fois qu'il pleuvra, il pensera à toi. » Roman déglutit. Le canon du pistolet était toujours collé à son visage. Un coup de poignet de Tranquille, et il se retrouverait avec une entaille sur la joue, comme un porc qu'on mène à l'abattoir. À moins que le gangster ne décide de réduire instantanément son cerveau en bouillie en appuyant sur la détente. Roman chassa ses pensées de son esprit et continua. « En une semaine, je peux transformer ces 50 000 $ en 150 000. Vous les récupérez et vous nous laissez respirer pendant quelques mois. T'arrêtes pas de répéter que tu sais y faire avec le fric et, je vais pas te mentir, jusqu'à ce que je vois les bifetons sur la table, j'y croyais pas une seconde. Comment tu comptes t'y prendre? Explique-moi, ça m'intéresse. » Roman le dévisagea. Désormais, il jouait sur du velours. « Je vais utiliser 25 000 $ pour acquérir des actions à bas prix. Et ensuite, je vais contacter un de mes associés. Cet associé ira raconter partout que la compagnie dont j'ai acheté les actions vient de recevoir une énorme infusion de cash de la part d'un investisseur providentiel. Le prix va grimper et quand je revendrai, on sera passé à 75 000 $. On appelle ça un pump and dump. Avec les 25 000 restants, je ferai une vente à découvert. » « C'est quoi ça ?» demanda Torrent. « C'est la gueule du compte en banque de Tank à la fin du mois !» lâcha un des hommes que Roman ne connaissait pas, et toute la salle éclata de rire. Roman ignorait qui était Tank, mais il mémorisa le nom, au cas où. Il bascula la tête en arrière, et Tranquille dut se pencher encore plus au-dessus du bureau pour essayer de lui remettre le canon du pistolet contre la joue. Roman recula de quelques centimètres supplémentaires. « Je peux pas parler avec une arme braquée sur moi, » déclara-t-il. Il retint son souffle. C'était le moment. Il ne leur manquait pas de respect, mais il fixait une limite. Restait désormais à espérer qu'il ne décide pas de la franchir en lui logeant une balle dans le crâne. « Et avec un pistolet enfoncé dans la bouche, tu penses que tu peux y arriver, connard ?» cracha Tranquille. Il commença à faire le tour du bureau. Mais Torrent lui fit signe de rester où il était. « Calme-toi, » lui intima Torrent, avant de reporter son attention sur Roman. « Allez, je t'écoute. Explique-moi ce qu'est une vente à découvert. J'ai soif d'apprendre. Et qui de mieux qu'un petit intello comme toi pour me servir de tuteur ?»« Je te tiens, enfoiré, » songea Roman. Une vente à découvert, c'est quand j'emprunte des actions à un courtier que je les vends dans la foulée, puis que j'attends quelques jours que le prix tombe pour les racheter. Je rends ensuite les actions au courtier et j'empoche la différence. Roman examina le visage de Torrent. Il pouvait presque voir les engrenages tourner dans la tête du gangster. Il s'éclaircit la gorge et précisa. C'est comme si j'empruntais à Monsieur X une queue de billard d'une valeur de 100 $, puis que je la vendais à Monsieur Y pour le même prix. Ensuite, j'attends que Monsieur Y traverse une période difficile et je lui rachète la queue de billard pour 70 $. Je rends la queue de billard à Monsieur X et j'ai gagné 30 $. Tu remplaces la queue de billard par des actions et tu as compris le fonctionnement d'une vente à découvert. Dans sa version légale, en tout cas. Torrent eut un très léger hochement de tête. Tu sous-entends qu'il existe une version illégale ? Il était ferré. L'avidité avait le don de transformer un athée en fanatique. Dans l'autre version,
Tu passes un coup de fil pour découvrir quelle action s'apprête à chuter. Une secrétaire qui vient d'apprendre que son mari la trompe et qui oublie un zéro sur une ligne de compte. Un PDG qui a gonflé le chiffre d'affaires de sa boîte et qui ignore que son mensonge est sur le point d'être révélé publiquement. Une entreprise qui va faire faillite parce que quelqu'un a tapé dans la caisse. J'ai des sources qui sont au courant de toutes ces choses-là. Et donc, je me dépêche d'emprunter ces actions et de les revendre, vu que je sais qu'elles vont chuter d'au moins 75% et que je vais pouvoir les racheter pour une bouchée de pain. Et en une semaine, boum! Sur un investissement de 25 000 $, je me suis fait 100 000. Techniquement, c'est du délit d'initié, ce qui est illégal. Mais si tu ajoutes ces 100 000 aux 50 000 du pump and dump, on a bien les 150 000 que je t'ai promis. Par contre, si le prix de l'action se casse pas la gueule, t'es baisé, dit Torrent en caressant son bouc. Tu perds ce que t'as investi et nous, on est obligés de t'emmener à la ferme. Roman ignorait ce qu'était la ferme, mais il n'avait aucune envie de le découvrir. En effet, mais ça ne se produira pas. Parce que je connais les gens qui savent quelles actions vont chuter, tout comme je connais ceux qui vont pouvoir en faire grimper d'autres artificiellement. Comment la plupart des riches sont devenus riches, d'après toi? Ils ont compris que souvent, il fallait tordre un peu les règles et que parfois, il fallait carrément les enfreindre. Moi, ma spécialité, c'est de leur indiquer à quel moment franchir la limite. Torrent tapa dans ses mains et se leva de sa chaise. « Et puis merde, qu'est-ce que ça coûte ? On va bien voir ce dont t'es capable. Soit tu nous gagnes ces 150 000 $, soit on t'emmène à la ferme. Et je te garantis qu'on prendra tout notre temps avec toi. Je te déconseille vraiment cet endroit. » Cru nécessaire d'ajouter tranquille. Un frisson glacé traversa Roman. Il transpirait tellement que sa chemise lui collait à la peau. Mais la première étape était franchie. Il avait désormais un pied dans la porte. Restait à entrer dans la maison afin de pouvoir y mettre le feu. « Bon, je vous laisse. J'ai un verre à finir », annonça Torrent. « Je parie que mes deux salopes ont recommandé une tournée de vodka Canneberge. Elles boivent ça comme de la flotte. »« Je t'appellerai quand j'aurai ton argent », dit Roman. « Surtout pas, tu vois ça avec Yellow Boy. » En entendant son nom, l'intéressé faillit tomber du canapé. « Putain, mais garde ton sang-froid, merde !» lui souffla intérieurement Roman. « Donne-lui ton numéro, Yellow », ajouta Torrent avant de se tourner vers Roman. « T'as une semaine. » « Une semaine, pas de problème. » Tout le monde se leva et Roman s'apprêtait à quitter la pièce quand il entendit une voix dans son dos. « Au fait, j'allais oublier, » fit Torrent. « Tu saurais pas où est passé Splody, des fois. » Roman sentit instantanément son anus se contracter. Lorsqu'il se retourna pour faire face à Torrent, il constata que tous les gangsters avaient les yeux braqués sur lui à l'exception de Yellow Boy. « Regarde-moi, putain !» songea Roman. « Tu veux que Torrent te grille ou quoi ?» Hélas, ses talents de télépathie ne devaient pas être très au point, car Yellow Boy continuait à fixer le sol, comme un enfant qui aurait fait tomber son cornet de glace. « Aucune idée !» répondit Roman. Yellow Boy et lui ont amené Getty et Cassidy au crématorium, ils sont restés jusqu'à la fin, et ensuite ils sont repartis pendant que je laissais les cendres refroidir, avant de pouvoir les empaqueter. « C'est marrant, ça !» dit Torrent. « Tu sais ce que nous a dit Yellow ?» La gorge de Roman s'assécha. « C'est donc comme ça que ça va se finir pour moi, » songea-t-il, étendu sur une moquette crasseuse, dans l'arrière-salle d'un restaurant avec une balle dans la nuque. Malgré tout, il se força à rester impassible. Dans une négociation, une des clés était de ne jamais révéler sa position. Ne pas paniquer tant qu'il n'était pas temps de paniquer. Roman ignorait ce que Yellow Boy avait dit, mais il doutait qu'il ait confié à Torrent être parti du crématorium avant que le boulot soit terminé. Roman avait le don de lire les gens. Ou que Yellow Boy se soit éclipsé, il ne voulait pas que ça se sache. Non. C'était sûr qu'il n'en avait pas parlé à Torrent. Ce dernier bluffait. Il ne pouvait en être autrement. Roman en aurait mis sa tête à couper. « Non ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » demanda-t-il le plus naturellement du monde. Torrent esquissa un sourire. « Exactement la même chose que toi.
Comme personne n'a revu Splody depuis l'autre soir et que ça ne lui ressemble pas de disparaître sans donner de nouvelles, je voulais vérifier que vos versions concordaient. Il faut croire que vous dites la vérité, hein ?
Il souriait toujours, mais son regard était glacial. Il ne faisait pas la moindre confiance à Roman. En revanche, l'idée de gagner de l'argent facile lui plaisait. Ça aussi, Roman pouvait le lire dans ses yeux.
« Tu penses que c'est un coup du Ghost Town Crew ?»
demanda Yellow Boy, d'une voix peu assurée.
« Non, il s'en serait vanté, » répondit Torrent.
« Mais je vais le retrouver. Et je vais avoir une discussion avec lui, histoire de vérifier qu'il n'a pas pris de mauvaise décision. »
« Comme Getty, par exemple ?» intervint Roman. S'il voulait gagner la confiance de ce fou dangereux, il devait prendre des risques.
« Quoi, Getty ?» fit Torrent.
« Un flic est venu parler de lui à mon frère, vu qu'ils étaient potes et qu'il a disparu du jour au lendemain. Il a expliqué à Dante que Getty était un de leurs indiques. Donc j'imagine que c'est plutôt une bonne chose qu'il se trouve dans cette boîte en compagnie de sa copine. »
Roman s'était efforcé de ne pas prendre un ton trop aidant, mais en gardant juste assez d'insolence pour faire entendre à Torrent qu'il disait la vérité et qu'il n'avait pas peur de la partager avec lui.
« Et ton frère, qu'est-ce qu'il lui a raconté ?»
demanda Torrent, d'une voix presque métallique. Roman sentait la mort flotter autour de lui comme une brise d'été. Il était désormais sur un terrain glissant. À partir de maintenant, chaque mot qui sortirait de sa bouche pouvait être à double tranchant. Alors il devait faire très attention à ne pas se couper.
Rien du tout ? Qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire ? Qu'est-ce que moi j'aurais pu lui dire ?
On a mis Getty et sa copine dans cette boîte.
C'est ce que tu voulais, non ? Qu'on se salisse les mains ?
Yellow, est-ce qu'ils se sont vraiment salis les mains ? S'enquit Torrent, sans quitter Roman des yeux.
Ouais, mentit le sous-fifre. Avec Splody, on a dû les pousser un peu, mais ils ont fait le job.
Roman ne savait toujours pas où Yellow Boy était parti ce jour-là. Mais il était désormais sûr à 100% que celui-ci ne souhaitait surtout pas que son boss l'apprenne. Une information précieuse qui pourrait lui servir plus tard.
« J'avais entendu des rumeurs comme quoi Getty était un indique, » dit Torrent. « Il a eu de la chance que ce soit vous qui vous occupiez de son cas. J'imagine que ça a été rapide. Est-ce que ça a été rapide, Yellow ?»«
Ouais, ils l'ont cramé comme un chamallow. »«
Bon, à dans une semaine, l'intello. Allez les gars, on va boire un coup. »
Torrent contourna le bureau et se dirigea vers la porte, pendant que Tranquil rangeait les billets dans un des tiroirs. Roman récupéra la mallette et se leva à son tour. Alors que tout le monde quittait la pièce, il y eut une fraction de seconde où Roman croisa le regard de Yellow Boy. Il secoua la tête de manière imperceptible, et Yellow Boy fit mine de s'intéresser à ses pieds.
« Donne-moi ton numéro, » lui dit Roman en dégainant son portable.
Yellow Boy dicta les chiffres et Roman les enregistra dans l'appareil. Quand Yellow Boy releva la tête, Roman constata qu'il avait des pupilles grosses comme des couvercles de poubelle. Il profita d'avoir le dos tourné à la porte pour placer un index sur ses lèvres.
« Yellow, tu viens le boire ce bourbon ou quoi ?»
cria Torrent depuis la salle.
« J'arrive !»
Yellow Boy frôla Roman et rejoignit les autres. Roman le regarda s'asseoir à la grande table, puis une serveuse s'approcha avec un plateau débordant de shooters. Chacun en attrapa un et après un rapide toast, ils vidèrent leurs verres. Yellow Boy en profita pour jeter un dernier coup d'œil à Roman. Celui-ci imagina tous ces gangsters attablés prendre simultanément une balle dans la nuque. Il les imagina s'affaisser sur leurs chaises, telles des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Il garda cette image en tête tandis qu'il regagnait la sortie.